Voilà, quelle joie de fêter aujourd'hui la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. C'est mystérieux ce monde des anges qui nous manifeste bien qu'il y a tout un monde invisible qui nous précède d'une certaine manière et qui nous entoure. Et c'est beau de pouvoir être ouvert à ce monde de l'invisible, à ces créatures angéliques, magnifiques. Rares sont ceux qui ont pu les voir et les beaux anges, ceux qui ont pu les contempler, ils ont de la chance. Alors une fois on disait à Padre Pio, ce grand mystique, on lui disait « Vous avez de la chance de voir les anges » parce que Padre Pio voyait les anges. Il lui disait « Oui, mais le problème c'est que quand on voit les anges, on voit aussi les démons et ça c'est beaucoup moins agréable. » Voilà, donc pas forcément souhaiter voir tous les anges. Mais peut-être mieux de ne pas les voir pour l'instant, en tout cas de ne pas avoir toutes les grâces mystiques de Padre Pio qui étaient très dures à porter. En tout cas, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce monde angélique qui nous entoure, qui est présent dans cette Église, qui nous protège, qui veille sur nous. Alors continuons notre lecture de la parole de Dieu que le Seigneur nous enseigne à travers cette parole. Alors, frères et sœurs, d'abord, est-ce que vous savez que la Bible, c'est pas la parole de Dieu? Je vais vous choquer, là. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible interprétée dans l'Esprit Saint, dans l'Église. Parce que le diable, quand il tente Jésus, il utilise les paroles de l'Écriture. Et dans la bouche du diable, la parole de l'Écriture, c'est pas la parole de Dieu. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu quand elle est vraiment comprise et interprétée dans l'Esprit Saint. Sinon, on peut lui faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. D'accord? Donc quand elle est interprétée dans l'Église, dans l'Esprit Saint, la Bible devient la parole de Dieu parce qu'elle a son sens juste. Mais quand le diable prend une parole de la Bible pour tenter Jésus, ça devient la parole du diable, pourtant il l'a tirée de la Bible. Donc ça veut dire que selon notre interprétation de la Bible, c'est la parole de Dieu ou pas. Si on interprète mal la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut être très attentif à bien interpréter la Bible et à ne pas lui faire dire n'importe quoi. Alors, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, verset 33. Ils vinrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Eux se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit « Quiconque accueille un des petits-enfants tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Voilà, merci Seigneur pour cette parole, et nous voulons qu'elle soit parole de Dieu, c'est-à-dire nous voulons que l'Esprit Saint souffle à travers cette parole, qu'elle touche notre cœur. J'aime beaucoup ce petit texte, ce petit événement, parce qu'il est, petit et en même temps très important pour les apôtres, pour la vie de l'Église. Donc je le resitue, Jésus vient d'annoncer à ses apôtres, pour la deuxième fois, qu'il va être livré aux mains des hommes. Autrement dit, il a annoncé sa passion pour la deuxième fois. Et les apôtres, quand Jésus leur annonce sa passion, ils n'entendent pas, parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Pour eux, c'est incompréhensible que Jésus qui fait des miracles, qui sauve tout le monde, qu'il meure sur la croix. C'est pas possible. C'est complètement inaudible. En psychologie, on appelle ça le déni. C'est-à-dire qu'il y a un déni, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre. Donc ils sont complètement dans le déni de cette réalité de la passion du Seigneur. Et d'ailleurs, quand Jésus va être crucifié, ils vont tous fuir, sauf Jean qui va revenir. Mais c'est tellement à contre-pensée, à contre-sens de leur pensée, qu'ils ne peuvent pas entendre pour l'instant. Et donc, quand le Seigneur annonce sa passion, eux, après, ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Donc Jésus leur annonce qu'il doit se faire le plus pauvre de nous, qu'il va souffrir. Et eux, à ce moment-là, surgit en eux des pensées d'orgueil pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Ça veut dire quelque part aussi que le fait que Jésus les ait choisis comme apôtres, ça les a aussi un peu remplis d'orgueil. Ils sont un peu laissés prendre par l'orgueil, mais quand même, on est ceux que Jésus a choisis, ceux qui guérit tout le monde, on n'est pas rien. Pour pouvoir devenir des apôtres, Jésus va devoir leur montrer d'abord leurs faiblesses, leurs limites, leurs péchés, et il va devoir leur montrer qu'ils sont très pauvres, qu'ils n'ont pas été capables d'aller au pied de la croix. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir être témoins du Seigneur, parce qu'ils se sont rappelés, ils ont découvert leur pauvreté, et à ce moment-là, l'Esprit Saint va pouvoir agir à travers eux, et ils auront fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Mais cette tentation qui leur vient à la communauté naissante, la communauté de l'Église naissante, est une tentation terrible qui menace toujours tous les chrétiens, commencé par les prêtres, bien sûr. C'est la tentation de se penser plus grand que les autres. C'est comme ça que vivaient les pharisiens. Ils s'estimaient plus grands que ceux qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Parce que quand on commence à s'estimer plus grand que ceux dans une communauté chrétienne, dans un couple, au travail, quand on se met au-dessus des autres, on brise la communion. Parce que ça veut dire qu'on met les autres en dessous, et donc on les méprise, on crée de la tension, de la violence. Le Seigneur veut apprendre à ses apôtres à être petits pour aller vers les autres et faire grandir les autres. Le chrétien, c'est celui qui fait grandir les autres. C'est pas celui qui écrase les autres, c'est celui qui doit les faire grandir comme Jésus a fait grandir tous ceux qu'il rencontrait. Commencer par toutes les femmes de son temps qui étaient blessées, il les faisait grandir, il leur redonnait la dignité. Pour faire grandir les autres, il faut se faire tout petit. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jésus donne comme modèle un enfant. Il donne comme modèle à ses apôtres, pas à l'enfant en général, mais un enfant concret qu'il prend au milieu d'eux et donne comme modèle, il leur donne comme modèle cet enfant. Vous devez être comme lui pour entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres ont dû être quand même assez décontenancés, parce que aujourd'hui encore, ça serait surprenant, mais à l'époque des apôtres, les enfants n'étaient pas du tout mis en valeur. Et donc, mettre un enfant, quelqu'un qui est vraiment la dernière roue du carrosse, si j'ose dire, devant tout le monde, et dire que c'est lui qui est le modèle des autres, ça a dû complètement déstabiliser les apôtres. Alors attention, Jésus ne fait pas de l'enfant comme on le fait parfois, un enfant roi. Il ne dit pas que l'enfant est génial partout et qu'il faut lui laisser faire tout ce qu'il veut. Il faut l'éduquer, bien sûr. Mais n'empêche qu'en éduquant un enfant, comme le disait un parent, en fait, je l'éduque, mais d'une certaine manière, il est meilleur que moi. D'une certaine manière, j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Même si les parents éduquent leur enfant, souvent, ils ont aussi à apprendre de leur enfant. Donc c'est la grâce d'être avec les enfants, c'est de pouvoir redevenir simple. Une fois, quelqu'un me disait, la seule fois où j'ai vu un cardinal se mettre à quatre pattes, le cardinal Danis de Belgique, de Bruxelles, on n'est plus évêque de Bruxelles, c'est devant un enfant. S'il voulait qu'un cardinal se mette à quatre pattes, il faut lui amener un enfant et peut-être qu'il se mettra à quatre pattes pour jouer avec l'enfant. Donc, voilà, même un président de la République, il se mettra à quatre pattes avec un enfant. Il ne se mettra pas à quatre pattes devant les autres. Donc l'enfant a vraiment ce génie de nous ramener à la simplicité, à la petitesse. Avec l'enfant, on n'a pas besoin de mettre des masses, on n'a pas besoin de gonfler les muscles, on a juste à être plus simple. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur demande à ses apôtres, d'être plus simple, de se mettre au service des autres, parce que Jésus, c'est l'enfant qui est au milieu de nous. Jésus, au milieu de nous, il se tient comme un enfant, et quand il sera sur la croix, d'une certaine manière, il sera comme un enfant, il se laisse faire, comme une brebis, comme un enfant. Il sera crucifié. Jésus est par excellence un enfant, l'enfant. C'est pour ça que quand on accueille un enfant, on accueille le Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur nous aide dans cette prière à devenir comme des enfants pour accueillir la grâce de Dieu. Voyez, on peut essayer d'analyser, d'essayer de comprendre comment le Seigneur agit dans cette prière, mais on n'arrivera jamais à comprendre. Ou alors on peut essayer de devenir plus saint, plus pauvre, plus réceptif. Et à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir nous combler d'amour, comme un enfant sait se laisser combler d'amour. Alors maintenant, je vais vous donner quelques témoignages que j'ai reçus. Je vais commencer par celui de Béatrice. Donc Béatrice, elle m'a témoigné qu'elle travaille dans un pressing et que du coup, elle doit faire souvent des efforts qui impactent son dos. Et elle a commencé à avoir très mal au dos, c'est devenu progressivement insupportable. Elle n'arrivait plus à faire les tâches qu'on lui demandait, puisque dans les pressings, vous devez porter des des linges, des sacs de linge qui sont lourds. Alors elle est venue un jeudi à la prière des malades, c'était en juin dernier, c'était avant les vacances. Elle est arrivée 2 heures avant la prière, elle s'est assise, elle avait très mal au dos, et elle avait tellement mal au dos qu'elle n'arrivait pas à prier par elle-même. Elle ne faisait que répéter en elle-même, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai très mal au dos. Donc Béatrice, elle avait les yeux rouges. Et puis, avant même le début de la prière, elle a commencé à ressentir un certain froid au niveau de son dos. Elle se lève et elle s'aperçoit qu'elle ne se sent plus mal. Donc c'était avant même qu'on ait commencé la prière des malades, c'était pendant le chapelet. Et à ce moment-là, elle se met à genoux et elle voit effectivement qu'elle n'a plus mal au dos, elle trouve cela bizarre. Le lendemain, au travail, tout ce qu'elle fait ne produit aucun mal de dos. Elle a beau faire des exercices avec son dos, elle ne sent rien. Le lendemain soir, elle porte son fils, toujours pas mal au dos. Donc maintenant, ça fait plusieurs mois qu'elle a été guérie, son mal n'est pas revenu, et donc elle rend grâce à Dieu.
Je remercie d'abord tout le monde. Je voulais remercier le Seigneur par rapport à ce témoignage. Comme le prêtre vous explique, j'ai été guérie du dos, tout juste avant que la messe commence. Donc, je suis dans les émotions, mais on rend grâce au Seigneur. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Gloire à Dieu, Jésus, d'avoir guéri Béatrice. Alors, Anna, elle est venue nous témoigner qu'elle avait de l'eczéma depuis l'été 2015. Et donc, tous les soins qu'on lui a faits n'ont pas guéri cet eczéma. Et les plaques se succédaient les unes aux autres, devenaient de plus en plus grandes. Alors, Anna, elle s'était éloignée de la foi, mais quand elle est venue à la prière des malades, elle commençait à y revenir. Bon, voilà, elle commençait à faire des petits pas vers le Seigneur. Et notamment, elle était venue plusieurs fois prier à la prière des malades pour des personnes qu'elle connaît et qui souffrent. Or, le 11 février dernier, il y a eu une parole de connaissance qui a annoncé la guérison d'un eczéma sur la jambe gauche. Et suite à cette parole, son eczéma s'est rétracté rapidement et il a disparu pour ne plus réapparaître. Et alors, Anna m'a aussi témoigné qu'elle a aussi reçu une grâce de guérison et d'apaisement, et ça c'est aussi important, il n'y a pas que les guérisons physiques, mais aussi les guérisons spirituelles, psychiques, parce que dans sa famille il y a eu un meurtre, il y a 21 ans, et ce drame l'a complètement traumatisé, et donc le Seigneur l'a guéri par rapport à cet énorme traumatisme, et a apaisé son cœur grâce à toute l'intercession de la prière des malades. Merci Seigneur Jésus pour ces deux grâces que tu as accordées à Anna. Voilà. Et puis, Parmira avait une arthrose qui l'obligeait à marcher avec une canne. Donc elle faisait de la kiné, mais ça ne s'améliorait pas tellement. Enfin, pas vraiment du tout, même. Et elle est venue la deuxième semaine du carême à la prière des malades, donc en 2016. Et le samedi suivant, elle n'avait déjà plus besoin de canne, et son médecin et son kiné ne comprennent pas comment elle a été guérie. Merci Seigneur pour cette guérison. Voilà, le dernier témoignage que je vais vous donner ce soir. Mathilde avait entendu il y a 3 ans une parole de connaissance affirmant que le Seigneur est en train d'apaiser le cœur d'une femme qui a été blessée, humiliée, et qu'elle va pouvoir donner un pardon qui la libérera. Et donc Mathilde s'est interrogée pour savoir si cette parole la concernait, alors qu'elle était toujours dans une grande révolte, dans une grande haine intérieure par rapport à des blessures qu'on lui avait faites, des humiliations. Et bien justement, depuis cette parole, elle a remarqué que toute la haine et l'amertume ont disparu de son cœur, et qu'elle arrive à reparler à la personne qui l'avait beaucoup blessée. Merci Seigneur pour cette guérison spirituelle. Voilà, maintenant nous allons accueillir Jésus. Il est au milieu de nous, il nous aime. Il agit paisiblement, discrètement, mais réellement au milieu de nous. Alors faisons-lui confiance comme un enfant. Les anges aussi nous accompagnent ce soir, en particulier les archanges. Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, intercédez pour nous, accompagnez-nous, protégez-nous sans cesse. Amen.